Bonjour à tout le monde.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, avant que la partie message, vous avez peut-être remarqué que plusieurs parmi nous sont absents. La famille Klein, Bénédicte, Lydie, voilà. Il y a tout un groupe qui est parti, en fait, à l'église de Münster, où il y a toute une équipe avec les enfants qui sont aussi actifs, qui va présenter la vision d'éducation chrétienne. Alors, vous rappelez tous que dimanche dernier, Luc a lancé un message extrêmement percutant. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Vous faites YouTube Luc Bussière. Et vous trouvez le message défi de la transmission. Vous avez tous les deux heures et quelques de enfin, le culte PO, mais aussi à l'intérieur, le message de Luc qui dure pas loin d'une heure. Donc, merci Seigneur. Il y a déjà des réactions des Québécois qui l'ont écouté, Brésiliens, tout ça. Enfin, l'extrémité de la Terre, c'est parti déjà, ce message. Il est très, très, très fort. Ah oui, sur le site, voilà. Oui, oui. Donc, on est dans des temps très, très importants. Ça y est, les églises s'ouvrent à l'éducation chrétienne après 30 et quelques années de persévérance dans la prière, l'intercession, tout ça. Et alors, on dit super, merci Seigneur, formidable. La conséquence, c'est à l'établissement Daniel, je ne vous dis pas, ça tombe les inscriptions de tous les côtés. Il y a des défis énormes et on ne se rend pas compte. On dit, bon, super, merci Seigneur, la vision passe, ça y est, les gens ont pris conscience de l'importance de la vision, mais il y a des conséquences et des défis énormes. un petit exemple, lundi dernier de cette semaine, hein, la direction et le comité se sont réunis pour chercher la face du Seigneur. Il y a pratiquement une quarantaine d'élèves qui arrivent en maternelle, on ne sait pas où les mettre. Alors c'est super et en même temps, des défis de locaux, des défis de personnel. Et ça, c'est que la maternelle. Il y a aussi le lycée, enfin d'autres choses. Mais vous voyez, il y a des défis énormes, en locaux en particulier, mais aussi en personnel. Donc, soyez avec nous. Pensez à soutenir toute l'équipe. Au milieu de nous, dans l'église, vous avez des gens de l'administration. Et je peux vous dire, ça chauffe à l'administration très fort. Les mails, les visites, les courriels, les téléphones, tout ça, ça pleut de tous les côtés. C'est la conséquence. Et puis, la direction. Hein, on a des gens de la direction aussi. Je peux vous dire qu'il faut organiser énormément de choses, il y a beaucoup, beaucoup. Mai, juin, c'est des deux mois extrêmement stratégiques, mais on a besoin de prières parce que ça, vraiment, ça y va très fort. Le bateau est en plein régime, là, le moteur, ça y va fort, mais il faut qu'on tienne le choc sous les pressions des demandes. Voilà, donc s'il vous plaît, Église Josué, soutenez l'équipe du Daniel et peut-être aussi Emmanuel, enfin les autres écoles, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, c'est formidable, c'est extraordinaire ce qu'on vit et en même temps, c'est des défis nouveaux. Voilà, ça c'était. Ah oui, on voulait que prier hein, avec Alain. Oui, oui.
Merci Anne. Levons-nous, on va prier ensemble pour l'établissement Daniel. Nous croyons que tout est entre les mains du Seigneur. J'avais cette pensée ce matin, les fossés de Dieu sont pleins d'eau. Amen. Dieu est notre provision. Et l'établissement Daniel n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre que Dieu a conçue et il nous a permis de l'ouvrir cette œuvre. Et il prend soin de cela. Je bâtirai mon église, dit le Seigneur, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et l'établissement Daniel fait partie de cette action de l'église. Seigneur, merci parce que nous sommes là ce matin comme des guerriers devant toi. Ça nous a été rappelé. Nous sommes l'armée de l'Éternel et nous voulons prendre l'arc d'airain. Et nous voulons envoyer pour le collège Daniel et vers le collège Daniel des flèches de délivrance. Seigneur, merci pour cette opportunité que ce collège a de rayonner dans cette ville et dans cette région tout entière, dans ce pays de France et en francophonie. Eh bien, nous te prions, Seigneur, de déverser ta bénédiction. Tu ouvres les écluses des cieux maintenant. Tu déverses ta bénédiction sur cet établissement et tu pourvois à tous les besoins, quels qu'ils soient, de cet établissement pour cette nouvelle rentrée. Seigneur, tu vois l'effectif qui va augmenter. Ils ont besoin de personnel, ils ont besoin de locaux, ils ont besoin de cet agrandissement. Seigneur, tu veux pourvoir au niveau des finances. Eh bien, nous crions à toi ce matin en tant que corps de Christ local. Et nous croyons, Seigneur, que ces flèches de délivrance arrivent pile à destination et sont au centre de la cible. Seigneur, merci pour ta protection. Merci, Seigneur, pour ta garde sainte. Seigneur, merci pour ton sang précieux que nous plaçons sur cet établissement. Eh bien, Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas dans l'inquiétude. Nous croyons que tu pourvois à tous nos besoins avec richesse et selon ta gloire en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette provision. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin et nous n'avons pas à nous inquiéter. Seigneur, tu sais d'avance, avant même que nous te demandions. Et nous voulons, Seigneur, simplement te rappeler ta parole qui nous dit que si nous demandons quelque chose en ton nom, Seigneur, selon ta volonté, tu nous écoutes. Et si nous savons que tu nous écoutes, quelle que soit la chose que nous t'avons demandée, nous l'avons déjà reçue. Alors nous disons ce matin, ce qui manque à cet établissement, nous l'avons déjà reçu et nous te disons merci dans le beau nom de Jésus. Amen.
On vit actuellement des temps extraordinaires. Côté royaume de Dieu, c'est extraordinaire. Il y a, je ne sais pas si vous sentez, une accélération, une intensification, des successions de temps kairos qui s'alignent comme ça, toc, 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 et ça va de plus en plus vite. Donc, il y a un vent d'esprit qui souffle et voilà. Il y a même pas trois semaines, pour vous dire comme les choses vont vite. Le lundi avant Pâques, on était tous devant nos écrans et on disait, il se passe quoi? Je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé le 15 avril, hein. Il se passe quoi? Et on sentait tous que quelque chose qui nous dépassait était en train de se passer. Il n'y a pas eu de victime, hein, je rappelle. Hein. Et il y a une image qui a été soulignée par Objectif France. Vue du ciel, il y avait un brasier en forme de croix sur la cité au cœur de Paris. Un brasier en forme de croix. Et le lendemain, dans une église dévastée, une croix lumineuse qui disait les choses. Et il y a un message fort, il y a plein de choses qu'on a pu dire là-dessus, hein, que les œuvres de ténèbres ont été consumées, la flèche qui est tombée, enfin, des choses. Objectif France a très, très bien évoqué tout ça. Mais au-delà de tout ça, il y a un message très fort qui dit, Jésus qui dit, Église de France, je t'aime passionnément. France, je t'aime passionnément. J'ai payé le prix et il y a le sceau de mon amour avec la croix en feu. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste après, Alana nous rappelait le prix payé par Jésus à la passion. Il y a l'amour de Dieu, l'amour brûlant de Dieu pour son Église de France, pour cette nation de France. Il est au cœur de la cité avec ce brasier en feu. Et c'est une image qui n'a pas cessé de m'habiter tout le temps de préparation de ce message cette semaine. Le brasier en forme de croix. C'est le sceau de Dieu. Il aime passionnément son Église. D'un amour absolument brûlant, ardent, qu'aucune grande eau ne peut éteindre. Au travers des siècles, il y a eu beaucoup de grandes eaux, de plein de choses négatives qui sont venues dans cette France. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Et en plus, c'est un temps particulier. Alors, le passage, ce qu'on va regarder, si vous voulez, il y a une voix prophétique puissante qui est déjà venue dans l'Église, hein, qui a dit que ce même feu qui embrase, qui consume, si vous voulez, les œuvres de religion, les œuvres mortes, ce même feu lève et embrase les pierres vivantes que nous sommes. Le même feu. Et ça a été dit, c'est une parole très très forte, prophétique, qui a été dite sur ce qui s'est passé. C'est, voilà. Le même feu est en train, et c'est maintenant, il embrase les pierres vivantes, tout en consumant les œuvres mortes. Le même feu. Et c'est maintenant, et c'est pour notre pays, et c'est maintenant. Et par rapport à l'intercession forte de Huguette tout à l'heure, c'est aussi le temps où cette boule de feu de l'amour de Sion pulvérise les couches et les couches de glace, d'antisémitisme, de rejet d'Israël, d'incompréhension, d'indifférence, tout ça. C'est le même feu, l'amour de Sion est en train de pulvériser ses couches pour que la France se tienne aux côtés d'Israël et avec sur son pectoral les Juifs de France, qui sont très nombreux dans notre pays. C'est le même feu. C'est un temps de feu. C'est un temps de feu. C'est énorme ce qui se passe. Donc le thème, le passage qu'on va lire beaucoup, enfin, c'est Cantique. Cantique des Cantiques. Alors Cantique des Cantiques, 5. Bon, on est au mois de mai, et vous allez voir le verset 5-5, on est le 5 mai, 5-5, il se passe quelque chose dans 5-5, Cantique 5-5. Mais on va commencer déjà au verset 2, Cantique 5, verset 2. Alors vous connaissez tout le début de Cantique, c'est très joli, c'est très romantique. Vous savez que Dieu est très 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 romantique, la France aussi, alors ça tombe bien, on a un Dieu extraordinaire. Et psaume 45, c'est aussi un 5, Fabienne nous dit que le psaume pour la France, c'est le psaume 45, « Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. » C'est le psaume pour la France, ça. et après quelque chose de guerrier qui arrive, c'est voilà. Donc bon, verset 1, tout va bien, et verset 2, voilà. J'étais endormie, mon cœur veillait. Donc c'est pas une église morte. J'étais endormie, il y a le cœur qui est là, qui bat, mais elle est quand même endormie. Et il y a une voix qui frappe. C'est quoi cette voix? Il y a une voix, ben c'est la voix prophétique, la voix. Une voix qui frappe. Ouvre-moi. On pense un peu à l'Odyssée, vous savez, je me tiens à la porte, je frappe. Jésus veut entrer. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie. Et puis, il lui dit qui elle est. C'est une voix qui dit son identité, ma colombe, ma parfaite. Il n'y a pas en toi de défaut. C'est vraiment la voix prophétique qui nous dit, qui dit à l'Église qui elle est. Et verset 3, la réponse de la bien-aimée, je. Moi. C'est pas le péché, c'est pas ce vôtre pas dans avec les pourceaux, hein, c'est pas ça. Mais c'est moi. C'est moi. Elle est centrée sur elle-même. Le regard est tourné sur elle-même. Elle voit pas du tout, elle a entendu, c'est sûr, mais elle a pas bougé parce que elle était absorbée en elle-même. Je. Pas de réaction. Et puis, après, verset 4, il se passe quelque chose. Il a passé la main. Alors, en hébreu, ce n'est pas vraiment la fenêtre, c'est une sorte de cavité, voilà, une ouverture. Il a passé la main. La main, ça parle de l'action. Ce n'est pas seulement la voix. Là, on était dans la voix, tout le verset dernier, c'était la voix. La voix prophétique, ça fait très longtemps qu'elle résonne sur le pays de France, la voix. Mais il y a une action. Et là, vraiment, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? La main, c'est l'action. Et ça passe par une ouverture. Ça veut dire qu'il y a, dans ce bunker de l'épouse, de la bien-aimée, qui, dans son petit lieu de sécurité, il y a quelque chose qui rentre. Alors, je ne sais pas. Je vous laisse ça. Chacun de nous, peut-être qu'il y a une action spéciale du Seigneur, propre à chacun. Ça peut être aussi collectif, et je crois que l'histoire de Notre-Dame, ça fait partie de cette main qui pénètre, là, qui... Et là, mes entrailles se sont émues. Alors, les entrailles siègent de l'amour, siègent des affections, siègent des émotions. Alors, le mot ému, c'est pas du tout ça. C'est une traduction totalement palichonne et édulcorée. C'est un mot très, très, très fort. Ce mot hébreu est traduit ailleurs par bouleversé. Les grandes eaux qui mugissent, ça parle aussi de choses qui hurlent. C'est très fort ce terme, il y a un bouleversement énorme. Les entrailles sont absolument bouleversées. Et après, c'est plus jamais comme avant. Vous voyez, c'est pas juste une petite émotion passagère. Ah non. C'est un bouleversement énorme. C'est tout est changé. Tout est changé. Donc, voilà, le Seigneur est en train de faire ça. Il est en train de passer la main, d'avoir une action au-delà de la voix prophétique. C'est plus fort que ça. Il se passe des choses. Et il y a un bouleversement des entrailles, de l'être intérieur. Et le verset 5, ça y est, 5 mai, 5-5, on y est. Je me suis levée. Et Mathieu et Huguette, on ne savait pas de quoi j'allais parler, hein, mais tu as parlé bien de ça. Se lever. Je me suis levée pour ouvrir. Est-ce qu'elle va se rasseoir après? Non. Vous allez jusqu'à la fin du cantique des cantiques, c'est fini. Non, elle n'est plus endormie, là. Elle se lève. Je me suis levée. De mes mains a dégoûté la myrrhe. La myrrhe, ça parle du service. Elle était en service quand même. Elle faisait des choses. Hein. Mais elle s'est levée. Et, lève-toi, sois éclairée, ta lumière arrive. Voyez. Elle se lève. Et on se dit, super. C'est trop romantique. Le bien-aimé va venir. Il va la rencontrer. Voilà, c'est l'unité. Eh bien, pas du tout. Après, vous avez les problèmes qui commencent. Et des problèmes difficiles. Les problèmes commencent. Quand on se lève, il ne faut pas croire que... Ah, des lits de pétales de rose. Non. Vous avez les passages les plus violents du cantique qui arrivent. Verset 7, elle est frappée, on lui enlève sa mantille, ça devient violent. Est-ce que ça la tiédit? Est-ce que ça la retient? Est-ce que ça la fait retourner en arrière? Pas du tout. C'est ça qui est extraordinaire. La confrontation, voire la persécution, tout ça, ça la rend, verset 8, malade d'amour. Alors, elle l'avait déjà dit au début du cantique des cantiques, je suis malade d'amour. Mais là, ce n'est pas la même dimension. Je suis malade d'amour. Vous voyez, l'effet de se lever, de confronter, il n'y a plus de retour en arrière, là. Et je crois vraiment, dans ce temps qu'on vit, on est dans ce temps-là. C'est d'être en train de secouer son église de France. Elle va se lever et elle ne va plus revenir en arrière. C'est le fameux train de parler France en feu qui va ça arrive. On va monter dedans et après, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. C'est parti. On se lève et il n'y a plus de retour en arrière. Quel que soit l'état où on est, c'est, le Seigneur il va tout faire pour nous lever. Et on sera, on devient malade d'amour. Alors ça veut dire quoi, malade d'amour? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte que Jésus. Voilà. Et vous allez voir, l'évolution, c'est extraordinaire. Alors, quand les autres demandent au verset 9, mais qu'est-ce qu'a ton bien-aimé, hein? Et alors là, à partir du verset 10, elle vous fait une description de Jésus. Ça y est, la révélation est là. Dans la difficulté, dans le fait de se lever, elle regarde à Jésus, et il y a une révélation beaucoup plus complète que dans les premiers chapitres du Cantique des Cantiques, où elle trouvait déjà qu'il était beau, mais voilà. Mais là, c'est beaucoup plus complet. C'est complet. Alors, j'ai envie vraiment de dire, Seigneur, restitution de bonnes traductions. Restitution. On se fait voler plumes et dépouiller. Ça suffit avec des mauvaises traductions. Mon bien-aimé, blanc et vermeil, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du vol. Heureusement, il y a des tas de sites qui nous disent qu'est-ce que c'est. Alors, blanc, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est incandescent, embrasé, rayonnant. C'est du feu. Ça vous fait penser à quelque chose? Mon bien-aimé est blanc. Enfin, rayonnant, embrasé. Qui est-ce qui apparaît comme rayonnant, embrasé, comme le soleil, là? C'est le Jésus de la transfiguration, bien sûr. Et aussi le Jésus d'Apocalypse. Et aussi le Jésus de Daniel. Et aussi le Jésus d'Ézéchiel. C'est le même. Mon bien-aimé est rayonnant, resplendissant, embrasé. C'est du feu. Et puis, vermeil, ben, vous allez chercher. Mais moi, ouais, c'est pas ça du tout non plus. Mais bon, là, j'ai pas eu de révélation. Il faut chercher encore. Donc, il est beaucoup, beaucoup... elle a une révélation complète. Si vous regardez du verset 10 au 16, c'est... Alors là, je ne vais pas faire tous les versets en détail, parce qu'il y aura des puits de révélation dans chaque verset. Il y a trois éléments. Simplement trois éléments pour vous dire qu'on peut creuser. Alors déjà, bon, il est rayonnant, il est embrasé, il est... C'est du feu, quoi. Et vous avez... Alors, j'avais... Dans un premier temps, je m'étais centrée sur le verset 14. Et puis... Ce matin, au matin, là, parle des yeux. Je crois que vraiment Saint-Esprit m'a dit, parle des yeux. Verset 12. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Donc ça parle du regard de Jésus. Ce regard, il y a plein de correspondances. Vous savez, la Bible est remplie de correspondances. Les colombes, ça parle de, bien sûr, de paix, de douceur, d'humilité, bien sûr, du Saint-Esprit. C'est des yeux remplis de l'esprit. Ça parle aussi de pureté. Et puis ça parle d'un repos. Et ça parle de cette paix énorme, de cette plénitude, l'abondance. Ça parle d'un rafraîchissement. Donc quand on fixe nos yeux sur Jésus, il y a tout ça qui vient dans notre être intérieur. Il y a ce voilà, on est au bénéfice de tout ça, cette paix. On est en plein tumulte, on regarde à Jésus, on reçoit cette paix. Et il nous a dit, je suis doux et humble de cœur, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Et le regard de Jésus, ça vous change la vie. Hein? Alors ça a été dit dans un film, il y a Bénure, vous rappelez ce fameux passage où le Bénure, il regarde à Jésus et puis pff, tout change. Quoi. Personnellement, c'est un regard, je suis visuel, hein, c'est un regard de Jésus qui m'a amené à la conversion. Et en plus, pas n'importe quel regard, hein, le regard de Jésus sur Pierre. C'est ce regard précis, je l'ai vu sur moi, ce regard, ces yeux de colombe là, et ça m'a pulvérisé. Et ça n'a pas arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? Le regard de Jésus. Regardez, pourtant, c'est hyper, très, très, très important de regarder à Jésus. Ça, c'est les yeux comme des colombes. On a parlé du visage embrasé, rayonnant. Et puis, une troisième chose, mais on pourrait dire, prenez toute cette description tellement complète, vous avez des puits de révélation là-dedans. Verset 14. Alors, la deuxième partie du verset 14. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Comme ça, peut-être, ça ne vous dit rien. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Ça veut dire quoi, ça? Il y a des richesses incroyables dans cette moitié de verset. Le corps, d'abord, c'est de nouveau très, très mal traduit. C'est les entrailles, et c'est le même mot que les entrailles de la bien-aimée qui ont frémi au verset 5. Ou au verset 4, oui. C'est le même mot, les entrailles, donc siège des affections. Et ces entrailles, c'est de l'ivoire poli. C'est pas de l'or, c'est pas des diamants, c'est pas des pierres précieuses. Ça veut dire que c'est pas du métal. C'est pas comparé à du métal. De l'ivoire, ça veut dire qu'il y a une mort. Il y a une mort d'animal. Il y a eu un prix payé, il y a eu de la souffrance. L'ivoire, c'est pas rien, c'est l'ivoire poli. Donc ça parle vraiment de ces entrailles de compassion d'un homme qui compatit, qui est passé par toutes nos difficultés, qui a des entrailles de compassion couvertes de saphir. Le saphir, le lapis lazuli, ça parle du trône de Dieu. C'est un trône de miséricorde, c'est un trône de grâce, c'est un trône de compassion. Et on voit ce trône dans plusieurs passages de l'Ancien des Écritures, couvert de saphir. Rien que ça, ça nous parle. On a parlé des yeux, on a parlé du visage rayonnant, et puis c'est les entrailles de compassion, les entrailles de miséricorde. Le Père qui est ému de compassion, Jésus qui est ému des compassions à la vue des foules. On pourrait contempler, adorer Jésus dans ses entrailles de compassion. C'est aussi, et puis vous avez tout le reste après. Hein. Pour vous dire que, je veux dire, là, la bien-aimée, elle a une plus plénitude de révélation. Et c'est très, très, très important d'avoir cette plénitude de révélation de la personne de Jésus. Parce que si on regarde au chapitre 6, après, eh bien, finalement, elle entend cette fois-ci la voix de Jésus qui parle sur elle. Je donne un exemple. Hein. Il lui dit, tu es belle. Il a déjà dit, hein, le chapitre auparavant, précédent, tu es belle, tu es terrible. Donc chapitre 6, verset 4. Tu es terrible comme des troupes sous leur bannière. Par exemple. Il lui a dit beaucoup de choses, hein. Et elle devient ce qu'il lui dit qu'elle est. C'est ça la grande différence. Avant, elle lui disait, mais bon, elle était centrée sur elle-même, elle regardait elle-même, voilà. Là, elle reçoit dans la foi ce que dit qu'elle est. Et si vous regardez après au verset 10 du même chapitre, chapitre 6, verset 10, les autres la voient comme Jésus dit qu'elle est et comme elle, maintenant, elle croit qu'elle est. Vous voyez la différence? Il y a un alignement. Elle devient vraiment ce que Jésus dit qu'elle est et les autres la voient aussi. Et l'Église de France, ce ne sera plus l'Église moribonde, l'Église très, très, très polluée, très impure, très, très, très endormie, très tout ça. Ça va être l'Église terrible sous la bannière. Parce qu'enfin, elle se lève et elle croit ce que Jésus dit d'elle. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil? Tiens, on voit les mêmes attributs de Jésus. Jésus est resplendissant comme le soleil. Elle devient resplendissante comme le soleil. Elle est identifiée à Jésus. Elle reçoit, elle est transformée à son image. On verra après. Terrible comme des troupes sous la bannière. C'est les autres qui, maintenant, qui voient ça. Ça, c'est waouh. Fou. Et là, on peut impacter une nation, on peut impacter la société, on peut impacter tout le monde, quoi. Voilà. Et puis, alors, une chose aussi extraordinaire, c'est dans l'évolution, vous savez, dans le Cantique des Cantiques, vous avez plusieurs fois ce deckmotiv qui revient. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Vous connaissez, mon bien-aimé. Sauf que, il y a une évolution. Ça apparaît trois fois dans le Cantique des Cantiques, cette histoire. Au début, c'est mon bien verse, enfin je donne une référence, mais c'est pas la peine de. Ouais. Chapitre 2, verset 16. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Est-ce que vous saisissez? Moi. Mon bien-aimé est à moi, c'est ma source de bénédiction personnelle, il me bénit, il me fait du bien, d'un. Je suis à lui. Évolution. Après, ça devient, quand même, c'est verset. Ah oui, c'est après le fameux chapitre 5-5. Après 5-5, on arrive au chapitre 6. Je suis à mon bien-aimé. C'est pas mon bien-aimé est à moi. Je suis à mon bien-aimé est à moi. On a inversé. Vous avez vu ce changement de position? On a inversé. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Et après, oh là 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 là, chapitre 7, verset 11, ça a complètement changé. Je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi. Elle n'est plus tournée que sur les désirs, les aspirations de Jésus. Et elle, voilà. Elle est à sa bonne position. Je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi. Après, au chapitre 8, oula, chapitre 8, la seule occurrence du nom de Dieu dans le Cantique des Cantiques. Il est caché. D'abord, ce Cantique des Cantiques, c'est un tout petit livre caché au cœur de la Bible, le cœur du cœur de la Bible. Et puis, au chapitre 8, vous avez un tout petit, toute petite référence à l'Éternel sous la forme en trois lettres, enfin en hébreu, je ne sais pas combien de lettres, hein. Yah, J-A-H, c'est même pas Yahvé, c'est Yah, J-A-H, et c'est associé avec, c'est chapitre 8, verset 6, la flamme de l'Éternel, chapitre 6, et c'est associé avec l'amour, un amour brûlant, un amour qui est de feu. L'amour est fort comme la mort, la jalousie inflexible comme le sujet de mort, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. L'Éternel, le mot Yah, est associé à la flamme et associé avec l'amour et associé aussi à la jalousie. Alors la jalousie, c'est un mot, waouh. La jalousie de Dieu, c'est du feu. Et c'est pas à prendre à la légère. Je crois que c'est un sujet qui est tellement sain que je crois que c'est très 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 long. Enfin, on n'a jamais eu d'enseignement sur la jalousie de Dieu, mais je peux vous dire que ça va venir, certainement. C'est un sujet, oulala, je ne fais que effleurer parce que c'est un sujet absolument sain. La jalousie de Dieu, c'est, ça a été traduit, il a un amour jaloux, passionné pour Israël. Donc, ce qui touche à ça, attention, c'est extrêmement dangereux. C'est du feu. Il touche à la prunelle des yeux de Dieu. Et on a vu des choses terribles arriver aux ennemis d'Israël. Terrible, terrible, terrible. Parce que ils se prennent en plein fouet la jalousie de Dieu. Il aime son peuple d'un amour passionné, passionné, passionné. Là, tout récemment, hein, on a vu ça en Assemblée Générale, on commence à dire, Seigneur, c'est pour toi ce secteur, les 0-3 ans. Attention, c'est la prunelle des yeux de Dieu, les tout petits, les plus faibles, les bébés. Je peux vous dire que là, on touche, oula, sainteté à l'Éternel. Hein. On y va, Seigneur, purifie nos motivations, purifie tout, parce que c'est là le cœur de Dieu. Vous voyez, les enfants, l'éducation chrétienne, tout ça, c'est du feu, hein, on le sait. Ceux qui vont avec des mauvaises motivations, c'est pff, ça crame. Hein. C'est la jalousie de Dieu, c'est quelque chose. Et je pense qu'il y a une sainteté, un vent de sainteté, un vent de crainte de Dieu qui va venir dans notre nation. Ça va avec le feu, ça va avec la jalousie, ça va avec tout ça. C'est une notion, oulala. La jalousie est dure comme le séjour des morts, ses fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. Et puis vous avez cet extraordinaire verset 7, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et il y a eu tellement de grandes eaux dans notre pays de France, tellement, tellement de grandes eaux, mais l'amour de Jésus ne s'est jamais, jamais arrêté de brûler pour son Église, quelles que soient ses turpitudes, ses désobéissances, ses prostitutions. Lisez Osée, Osée se épouse une femme prostituée. Épouse-la. Vous voyez ce que je veux dire, c'est l'amour de Dieu. Ah oui, quelque chose de très très important. C'est le temps pour avoir une révélation complète de Jésus. Il faut lire toutes les Écritures. Et on n'est plus dans le temps où lire simplement les Évangiles, ça suffit. Non, non, non et non. Quand les disciples d'Emmaüs étaient commencés à être vraiment vraiment froids, hein, enfin, même désespérés, découragés, tout ça, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il ne s'est même pas révélé en tant que physiquement, vous voyez. Visuellement, pas du tout. Il a pris les Écritures et il a dit aux disciples tout ce qui le concernait. Il n'y avait pas encore de Nouveau Testament, que je sache. Tout ce qui le concernait, depuis Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque, les prophètes, ça parle aussi de tout ça. Il a tout dit ce qui le concernait. Parce que Jésus, il est partout dans les Écritures. Et si on n'a qu'une révélation du Jésus des Évangiles, c'est absolument insuffisant par rapport à ce qui est devant nous. Il faut la révélation complète de Jésus. Et elle est énorme dans ce qu'on appelle le Tanakh, mal traduit, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Tanakh, ou les Écritures, comme le disent les Évangiles. C'est le Tanakh. Et puis pour ça, nos amis messianiques sont extraordinaires, parce qu'eux, ils ont tellement travaillé dans le Tanakh qu'ils ont des révélations incroyables de Jésus. Jésus, il est partout dans les pages du Tanakh. Et on a besoin de cette révélation forte. D'ailleurs, on nous a dit aussi, avec Anne Griffith, Fabienne Pons, tout le monde, pour la France, c'est l'onction de Jean. Jean, c'est l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus. Jean, c'est un juif messianique, mais qui était imbibé des Écritures. Et le Jésus qu'il voit, c'est le même Jésus que vont vu les grands prophètes Daniel et Ézéchiel. C'est le même. Et ça va complètement ensemble. C'est une révélation énorme. Ce n'est pas le Jésus des Évangiles. C'est le Jésus qui vient en gloire, le Jésus qui dirige ses troupes de combat. Ah oui, un petit exemple. Juste, ça, c'est les messianiques. Hein. Ce n'est pas moi qui ai trouvé toute seule. Hein, mais les messianiques sont extraordinaires. Vous avez dans Josué le chef de l'armée d'Éternel, donc Jésus, qui arrive devant Josué. Vous connaissez tous ce passage. Il arrive, c'est un chef, on ne voit pas son armée. Bon, après, elle fait du dégât à Jéricho, l'armée, hein, mais on ne la voit pas. Après, quelques années plus loin, dans les rois, vous avez Élisée, vous avez l'armée. Vous savez, Élisée, Gazi ouvre ses yeux, il ne voit rien de rien, ce garçon. Voilà, rien. Bon, les chairs éternelles partout, les feux, etc. Voilà, vous avez l'armée, vous n'avez pas le chef. Donc, Josué, vous avez le chef, pas l'armée. Roi, vous avez l'armée, pas le chef. Où est-ce qu'on voit et l'armée, et les armées, et le chef? Oui, Aude? Apocalypse. Ouais. Donc, Apocalypse. Vous avez Jésus, vous savez, sur son cheval blanc, et les armées qui le suivent, vêtues de fin lin. C'est là. Jean a une vision beaucoup plus complète. Et Jean, c'est celui quand même qui est allé jusqu'à la croix avec Jésus. C'est l'intime de Jésus. C'est lui qui a su tous ses secrets. Et c'est aussi le Jean. Et c'est l'onction de Jean qui est pour nous, les Français. Hein? Donc, c'est... Bon, Paul, Pierre, ça, c'est extraordinaire aussi. Hein? Mais voilà, c'est comme ça. C'est notre appel. On est un peuple prophétique. Et on doit se tenir aux côtés d'Israël. Donc, voilà, c'est... On est dans des temps très, très sérieux. Et puis... Ah oui, alors, ce que je voulais dire... Je reviens à ma deuxième partie. Oui, très important donc de regarder à Jésus, regarder du bon côté. Et vous avez Hébreux 12, 1, 2. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Et le Seigneur nous dit, détournant les yeux sur Jésus. Parce que nous, on nous a dit fixant les yeux sur Jésus. Je crois que c'est Hébreux 12, verset 2. Ce n'est pas fixant les yeux sur Jésus, mauvaise traduction. Détournant les yeux sur Jésus. Ouais, c'est pas ayant les regards sur Jésus, comme si naturellement, comme ça, on regardait Jésus tout le temps. Pas du tout. Naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les problèmes, on regarde nous, mais aussi les problèmes, les fardeaux, les circonstances, tout ce qui se passe dans les mondes des ténèbres. On regarde ça naturellement. Donc le vrai mot grec, c'est détournant les yeux vers Jésus. Et je peux vous dire, j'ai pratiqué cette semaine, hein, parce que j'ai dû pratiquer à haute dose mon message cette semaine parce qu'il y avait des circonstances qui voulaient vraiment me détourner les yeux. Voilà. Donc détourner, c'est un acte de volonté. Détournant les yeux sur Jésus. Et pourquoi? Il suscite la foi et il l'amène à la perfection. Ça veut dire que si on ne tourne pas les yeux sur Jésus, on va regarder autre chose. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Implicitement, je suis prof de français, implicitement, ça veut dire que si on ne tourne pas les yeux vers Jésus... Eh bien, on est dans la confusion, on est dans la tristesse, et puis, oui, franchement, c'est pas drôle. Voilà, voilà. Et en plus, on tombe dans l'incrédulité, parce que c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, on a tout faux si on fait ça. Tout faux, tout faux. Alors, on reconnaît que les circonstances peuvent être assez tumultueuses. Ça, c'est vrai. Et puis, y a beaucoup d'agitation dans le monde des ténèbres. Et elles font tout pour attirer notre attention. Regarde comme c'est pas beau. Alors là, j'ai choisi de traiter ça de façon humoristique. Parce que l'humour tue, hein, voilà, les œuvres des ténèbres. Et Dieu se moque de ses ennemis. Alors, donc, les œuvres des ténèbres, on y va. Première image. Alors, j'ai fait du visuel. J'aime beaucoup Alain Auderset. Ceux qui savent la BD, Carlo, tu dis rien hein, sur la suite. Voilà un exemple des mondes des ténèbres. Vous ne pouvez pas lui échapper. C'est lui le meilleur, il ne rage jamais sa cible. Il a l'instinct du vilain. C'est Killerman. Ça, c'est un méchant, méchant, méchant monstre du monde des ténèbres. Oh là là, qu'il n'est pas beau. Oh, qu'il est intimidant. Oh, que c'est pas beau tout ça. Oh, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Image numéro 2. On croyait que c'était le top. Non, il y a mieux. Il n'a aucun sentiment de pitié. C'est le plus fort. Rien ne lui résiste. Il est craint de tout. Terror d'Estroman. Il y a des gratte-ciel derrière. Il est encore aussi haut que les gratte-ciel. C'est franchement très, très, très impressionnant, très méchant. Très... Ouh là, que c'est pas beau. Pouh, là, 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 et c'est pas fini. Oh, est-ce qu'il peut y avoir pire que ça? Il est plus malin que vous ne serez jamais, il arrive toujours à ses fins. Son venin est impitoyable. Evil Deathman. Pouh, là, 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 là. En parlant de Evil Deathman, son venin, il y a du vécu cette semaine. Des échantillons de livres SVT seconde qui arrivent à l'école Daniel. Par curiosité, j'ouvre. Oh, le venin. Impitoyable venin. Ouh, là, là. Ouh, le gros méchant Evil Deathman. Dans les livres de SVT seconde. J'ai du vécu de cette semaine. Hein. Evil Deathman. Oui, c'est très intimidant. Evil Deathman. Et je ne vous parle pas des livres de français aussi. Evil Deathman. Donc, oh là, oh que c'est pas beau. Oh que c'est pas beau tout ça. Et c'est du vécu, c'est du très concret. Je peux vous dire des choses très concrètes qui vont avec. Ok, on continue. Mais incontestablement, le plus terrible de tous. Roulement de tambour, David. On continue. Brebis man, et je dirais même Brebis woman. Brebis woman, qui vous dit salut. Et pourquoi? Il est plus terrible que tout le monde. Image suivante. Le bon berger veille sur lui. Vous avez vu la taille des trois autres gars, hein, les kai-kai-kai, les tireurs, killerman, machin, truc. Vous avez vu la taille de notre berger, là? Et par rapport au petit Brebisman. Quelle image avons-nous de Jésus? Quelle connaissance avons-nous de Jésus? Hein? Alors, dans notre petite littérature française, nous, le berger, c'est la petite pastorale du 18e siècle, Marie d'Antoinette qui avait des petits moutons gentils à Versailles, vous savez, le petit berger gentil. Non. Le roi David n'avait pas cette image-là de Jésus, du bon berger. Hein. C'était celui qui l'aidait à vaincre les lions, les ours, et après, Goliath. Ça, c'est le berger qu'on connaît, le terrible Jésus. Vous voyez, le Jésus de l'Apocalypse, celui qui a le visage rayonnant comme le feu. C'est celui-là qu'on doit connaître, les amis. Parce que les Killerman et compagnie, ça arrive, hein, ça arrive très fort. Hein. On a été prévenus, même qu'il y a les prophètes qui nous disent il y aura même des prodiges dans le monde des ténèbres, des choses très impressionnantes dans le monde des ténèbres. Et puis ça vous saute aux yeux, vous ouvrirez votre ordinateur, vous allez voir votre messagerie, et paf, une nouvelle complètement démoniaque qui arrive, vous saute à la figure. Je ne vous fais pas de dessin, mais c'est du vécu aussi. Vous arrivez, vous ouvrez, oh là là. Donc les ténèbres sont très agitées, il y a de quoi d'ailleurs, parce qu'il y a de quoi se faire des cheveux quand même. Les ténèbres sont très agitées et très spectaculaires, et un grand piège, elles vont vouloir nous séduire. Regarde-moi, je vais te ficeler comme un saucisson. Et puis le bois qui vous entoure, regarde comme je suis pas beau, regarde ce que je fais dans les ténèbres. Oh que c'est pas beau ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va vouloir nous séduire, nous pousser à regarder. Et une dame très sage nous a dit il y a 30 ans, mais j'ai jamais oublié, ne regardez pas à l'antéchrist qui vient. Regardez à Christ qui revient. Et ça, c'est franchement une part. Il faut vraiment qu'on soit très, très discipliné. Parce que c'est très facile d'être séduit par tout ce que fabriquent les ténèbres. Très facile. On est naturellement tenté de regarder ce qui se passe. Mais nous, on regarde à Jésus. Et c'est pour ça qu'on a tellement, tellement important. Et puis après, ah oui, une autre. Alors, je termine mon dernier point. Très, très important. Quand on regarde à lui, non seulement il y a toutes les bonnes choses, on n'est pas dans la confusion, on est rayonnant de joie et tout. Psaume 34, ça vaut le coup, ça. Mais beaucoup plus que ça, nous sommes métamorphosés. Alors le verbe métamorphoser, il est très fort. Il y a 4 occurrences dans le Nouveau Testament, en grec. Hein. Métamorphoser, ça veut dire un changement de forme. C'est un mot très, très, très fort. 4 occurrences dans le Nouveau Testament. Ça, c'est vérifié avec la Strong. Hein. Vous avez 2 occurrences de la transfiguration de Jésus. 2 pour Jésus. Hein, métamorphoser, transfigurer, c'est le même mot en grec. Et 2 pour nous. Alors, on va prendre Romains 12. Celle-là, on va les lire. Hein. Romains 12, tu l'as. Romains 12, versets 1 et 2. Par les compassions de Dieu, vous connaissez. Il faut, d'ailleurs, ça commence toujours à 12, mais en fait, à 11, vous avez un extraordinaire un chant d'adoration à Dieu sur sa bonté. Et puis, chapitre 12, voilà. Je vous encourage, frères, par les compassions, les bontés. Le fondement de notre foi, c'est la bonté de Dieu aussi, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Lui, il a offert et a offert son corps comme un sacrifice vivant. Et ce qu'il demande, c'est une relation de réciprocité, un don total de nous, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Continue, verset 2. Ne vous conformez pas. Alors, en français, c'est nul. Parce qu'on a l'impression que conformer, transformer, c'est le même mot avec le même radical et puis 2 petits préfixes qui changent. Rien à voir en grec. Comprenez ? Conformer, transformer, c'est pas du tout la même chose en grec. Transformer, c'est métamorphoser. On change complètement de forme. Conformer, en fait, c'est être dans le même schéma. C'est le mot schéma qui est un mot très mort, très, très mort. La même configuration, le même schéma, vous voyez. Donc ne vous mettez pas dans le schéma du siècle présent. Soyez métamorphosés, chenille, papillon, etc. Soyez changez complètement, complètement de forme. Chenille, papillon, ça n'a rien à voir. Hein. Soyez métamorphosés par le renouvellement d'intelligence. Et puis la dernière occurrence, c'est 2 Corinthiens 3, 18. Tu l'as ? 2 Corinthiens 3, 18 qui nous dit, voilà, c'est pour ça que c'est tellement, tellement, tellement important de regarder Jésus. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On regarde à Jésus, on regarde au Jésus glorifié, au Jésus de l'Apocalypse, au Jésus de toutes les Écritures. Nous sommes métamorphosés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et voilà, les ténèbres coulent la terre, ok, l'obscurité se lève, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Nous sommes métamorphosés, transformés. Voilà l'étape finale. Nous dépouillons la vieille nature, nous revêtons l'homme nouveau qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est notre destinée, c'est être métamorphosé à l'image de Jésus et faire ce qu'il fait, être ce qu'il est, dire ce qu'il dit, etc. Mais ça implique, voilà, tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire chercher, venez, retournons à l'Éternel, dit Osée, chercher à le connaître dans toutes les Écritures, l'intimité, la communion, l'obéissance, l'adoration. Et on est métamorphosé de gloire en gloire. Donc c'est extraordinaire ce qui est devant nous. Donc, les œuvres de ténèbres, non, rien du tout, c'est rien. L'espérance, l'espérance, c'est le retour de Jésus, c'est le royaume de Dieu sur terre, c'est tout ça. Donc, c'est une énorme, énorme espérance. Voilà. Et puis, j'avais demandé, je proposais qu'on puisse terminer par un chant d'adoration à Jésus, parce qu'après tout ce qu'on a dit, ben, le mieux du mieux, c'est